Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole. Nous sommes vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Vous nous rejoignez où que vous soyez, en France, quelque part à travers le monde, vous êtes les bienvenus. Venez lancer le débat sur l'antenne d'RFI, venez réagir, commenter l'actualité de la semaine. Vous nous interpellez sur les événements qui vous ont marqué dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. C'est l'occasion aussi de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas forcément parlé ces jours-ci dans l'émission. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction des RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Plusieurs questions après la signature au Mali des accords de paix. C'était samedi dernier à Bamako. Signature par les principaux groupes rebelles du Nord. Ibrahima, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles de la RFI.
Vous nous appelez de Dakar, au Sénégal, nous vous écoutons.
Oui, enfin, ouais. Les rebelles du Nord Mali ont récemment signé l'accord de paix d'Alger, après avoir refusé d'Iran le dernier mois de le faire. Après tant de réticences, quelles sont les raisons qui ont poussé les rebelles à signer l'accord?
Ah, bonne question. C'est vrai qu'il a fallu des semaines et des semaines de tractations, de marchandages. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des correspondants des RFI au Mali. On se souvient que le 15 mai dernier, le camp gouvernemental avait signé cet accord de paix. En revanche, les groupes rebelles du Nord avaient refusé de signer le document, invoquant un texte qui ne répondait pas aux réalités de la crise. Pourquoi, un mois plus tard, ces groupes armés ont-ils fini par accepter la paix? Est-ce que certaines de leurs revendications ont été prises en compte?
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs éléments qui ont été déterminants pour la signature de l'accord par les rebelles de la coordination des mouvements de l'Aldawan. Alors, dans un premier temps, ils avaient paraffé l'accord, disons une petite signature. Ensuite, ils ont demandé la réouverture des discussions avec le gouvernement malien. Ils ont obtenu cette demande et deux documents importants sont sortis des discussions. Dans le premier document, il y a eu un arrangement sécuritaire sur la ville malienne de Ménaka. Vous savez que la ville était contrôlée un moment par les rebelles, ils en ont été chassés par les groupes d'armées pro-gouvernementaux, et avec l'arrangement sécuritaire, les groupes rebelles pro-gouvernement maliens ont accepté de quitter la ville, dont le contrôle est désormais assuré par les casques bleus de l'ONU avec une présence interne de l'armée malienne, alors que les rebelles sont désormais à 10 km de la ville. Alors, dans un second document, les rebelles ont obtenu au moins deux choses, ça s'appelle un relevé de conclusion, une présence plus significative, plus massive au sein de la nouvelle armée nationale dans le nord du Mali, ils sont très nombreux dans cette nouvelle armée, et ils ont également obtenu des réformes institutionnelles, une plus grande implication des populations locales dans la gestion des affaires. Et puis, il y a eu également la levée des mandats d'arrêt international par le Mali contre les rebelles. Oui. Mais ajoutons quand même qu'il commençait par avoir de part et d'autre une lassitude de la crise et des divergences également, disons-le, au sein des différents groupes. Et ça a facilité probablement les choses.
Et on aura l'occasion dans la libre antenne, dans la deuxième partie de l'émission, de revenir justement sur le contenu de cet accord signé samedi à Bamako. Les auditeurs sont nombreux à souhaiter nous exprimer soit leur optimisme, soit leur scepticisme. Vous aviez une autre question, Ibrahima?
Oui, la signature de l'accord par les rebelles serait due à la pression de la part de l'Algérie et de la communauté internationale. Comment ces pressions ont été exercées?
Ce qu'on peut dire, Serge Daniel, c'est que la communauté internationale a, on va dire, tordu le bras des rebelles du Nord pour qu'ils acceptent de signer ce texte.
Oui, j'aime bien votre expression, tordu le bras, mais pas le casser. Il y a eu des pressions, vous savez, et quelques semaines avant la signature de l'accord de paix, des responsables onusiens ont sorti quand même le petit bâton en rappelant que toutes les personnes qui sont contre la paix On peut, par exemple, décréter gel des avoirs, interdiction de voyager. Ensuite, il y a eu quand même des pressions, disons-le, familiales, des pressions tribales. C'est très important dans cette zone du nord du Mali. En tout cas, ce qu'on a remarqué également, c'est que quasiment tous les pays africains et européens où circulent les rebelles ont mis la pression. On a vu des rebelles qui ont commencé pas par s'inquiéter, mais ont commencé par discuter, à accepter les négociations. Donc, disons effectivement qu'il y a eu pression et que ça a joué un rôle important.
Autre question, toujours sur ce dossier. François, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous êtes à Lomé au Togo, on vous écoute.
Oui, j'appelle de Lomé. Un accord de paix a été signé entre le gouvernement malien et les rebelles maliens. Et cependant, la situation en Libye est toujours chaotique. Ma première préoccupation, quel peut être l'impact de la situation en Libye sur le processus de paix au Mali?
Alors, théoriquement, Serge Daniel, après la signature de cet accord, la situation dans le Nord doit se normaliser. Malgré tout, est-ce que le chaos libyen peut avoir une quelconque incidence sur la situation dans le Nord du Mali?
Ah oui, tout à fait. D'abord parce que vous savez que la crise libyenne a entraîné la dégradation de la situation dans le nord du Mali. Il est désormais avéré que les armes ont quitté la Libye pour venir au Mali, les armes et les explosifs également, et que ça continue. Il y a quelques semaines, les forces françaises de l'opération Barkhane et les forces armées nigériennes, vous le savez, ont été obligées d'intervenir dans un triangle entre le Niger, l'Algérie et la Libye, un triangle frontalier qu'on appelle la passe de Salvador, lieu de tous les trafics, d'anarchie. La Libye continue par représenter un danger pour le nord du Mali, et ce que disent les experts, c'est que c'est bien de régler la situation, d'obtenir un accord de paix dans le nord du Mali, mais si on ne va pas à la source, si on ne va pas en Libye, si on ne règle pas le problème libyen, il serait difficile d'avoir une paix durable dans le nord du Mali.
Ouais. Est-ce qu'on sait, Serge, Daniel, s'il y a encore des liens entre certaines milices libyennes et des groupes armés maliens?
Écoutez, entre les rebelles libyens et les rebelles maliens, c'est sûr, peu avant déjà de la crise, il y avait des groupes armés qui sont aujourd'hui dans le nord du Mali, qui sont arrivés de la Libye. Vous vous souvenez de ces combattants qui étaient dans la garde prétorienne de Kadhafi et qui ont débarqué ici avec des armes. L'actuel patron du MNLA, par exemple, l'aide de l'aile militaire, c'est quelqu'un qui était en Libye, il s'appelle Najib. Maintenant, il faut se souvenir qu'il y a également un mouvement qui continue, un mouvement de flux et de reflux de combattants djihadistes entre le nord du Mali et la Libye. Vous le savez, les islamistes se sont également installés. Il y a quelques semaines, par exemple, les Américains ont affirmé qu'en Libye, ils ont visé un groupe terroriste dans lequel se trouvait l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Hors de notoriété publique, il était dans le nord du Mali. C'est une preuve palpable de collusion, de complicité, de connivence entre les djihadistes du nord du Mali et ceux de la Libye. Ça peut contaminer des groupes rebelles parce que entre les groupes rebelles et les djihadistes, il y a un point commun, c'est qu'ils utilisent des armes venues parfois de la Libye. Donc le danger est permanent. Régler la crise dans le nord du Mali est une chose, mais pour régler de manière durable cette crise, il faut, à mon avis, forcément régler la question libyenne.
Merci à vous, Serge Daniel, de cette analyse. Merci à François qui nous appelait de Lomé. Il est 10h18 à Paris. Avant de repasser au standard, pour parler notamment du processus de paix en Centrafrique, je vous rappelle que lundi, RFI consacrera une journée spéciale aux chiites et aux sunnites. C'est vrai que quand on vous parle dans nos différents journaux de la situation en Irak, en Syrie, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Iran ou encore au Liban, eh bien, il est impossible de ne pas mentionner la rivalité régionale entre chiites et sunnites. Et pour l'occasion, eh bien, RFI vous proposera de nombreux rendez-vous avec des reportages, des invités, des experts, et nous répondrons à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant si vous souhaitez mieux comprendre les origines de cette rivalité et les enjeux de cette opposition chiite-sunnite. 33 9 693 693 60. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique d'RFI, merci de nous rejoindre. Faudé nous appelle de Cancan, c'est en Guinée. Bonjour Faudé.
Bonjour Juan Gomez.
Vous avez des questions sur la Centrafrique?
Oui.
On vous écoute.
Un accord de paix soutenu par l'ONU est actuellement en cours en Centrafrique.
Oui.
Actuellement, en Centrafrique, l'armée centrafricaine doit-elle être réformée? Ma question est de savoir en quoi consiste cette réforme et quelle est l'importance, quelle est son importance dans le processus de paix.
Ah, le rôle des FACA, les forces armées centrafricaines dans le retour de la paix en Centrafrique. Pierre Pinto, on se souvient qu'au lendemain de son élection à la tête de la transition, Catherine Samba-Panza avait dit que la reconstruction de cette armée nationale était l'une de ses priorités. Où en sommes-nous et déjà en quoi consiste la réforme de cette armée?
Bah déjà, il faut tout reconstruire ou presque. Hein. Rappelez-vous, l'armée centrafricaine s'est distinguée par son inefficacité face à l'avancée de la Seleka en 2012-2013 jusqu'à la prise de Bangui et à la chute de Bozizé, où elle a carrément volé en morceaux. L'armée était alors très ethnicisée, elle ne répondait pas aux standards professionnels d'une armée classique. Et pour les autorités de transition conduites, vous l'avez dit par Catherine Samba-Panza, cette réforme de l'armée est une priorité. Petit à petit d'ailleurs, en 2014, on a commencé à voir les militaires dispersés par la crise regagner les casernes. À l'heure actuelle, l'armée compte environ 7500 hommes, des soldats qui se rendent chaque matin au camp Kassai dans le sud de Bangui, pour se rassembler, pour lever les couleurs et aussi pour s'entraîner. Mais c'est une armée qui n'a pas d'armes parce que le pays fait l'objet d'un embargo. Alors certes, l'embargo a été allégé puisqu'en mars dernier, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a assoupli ces restrictions. Mais en fait, cette réforme a été formellement lancée au début de l'année. Les autorités de transition ont officiellement reconstitué ce qu'elles considèrent aujourd'hui comme un embryon de la future armée, un bataillon d'intervention nationale fort de 450 hommes armés et entraînés. C'est la première étape. Alors cette réforme de l'armée, il en a été évidemment question lors du forum de Bangui en mai dernier, et notamment quand il a été question du DDR, le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion. 9 groupes armés, vous le savez, ont signé avec le ministère de la Défense un accord par lequel donc ils s'engagent à déposer les armes et à regrouper leurs combattants. Et cet accord de DDR prévoit que ces combattants pourront soit être intégrés dans les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire armée, police ou gendarmerie, soit retournés à la vie civile avec une formation et un métier. Mais ce genre de programme coûte cher. Pour l'instant, il n'est pas financé. Le processus s'annonce très long. Le forum est d'ailleurs resté très flou sur les contours, sur la taille de la future armée centrafricaine.
Et il va falloir que les bailleurs de fonds, évidemment, mettent la main au portefeuille pour financer ce fameux programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Faudé nous demandait quelle était l'importance, finalement, de cette armée centrafricaine dans le processus de paix.
Alors, vous l'avez dit, c'est une priorité politique exprimée par la transition. C'est aussi un souhait qui a été largement exprimé par les Centrafricains lors des consultations populaires cet hiver. L'armée, c'est bien sûr nécessaire pour sécuriser le territoire. C'est un pilier d'un État digne de ce nom. Et la Centrafrique ne pourra évidemment pas éternellement compter sur la présence de forces internationales. Certains espèrent que cette future armée centrafricaine puisse même constituer un creuset de vivre ensemble. Pourquoi pas, par exemple, entre musulmans et chrétiens. Mais il n'y a quasiment pas de musulmans aujourd'hui dans l'armée. Il faut rappeler qu'en février 2014, un homme perçu comme un musulman a été lynché en plein jour, en pleine rue à Bangui, quelques minutes seulement après une cérémonie de refondation de l'armée, présidée par Catherine Samba-Panza en personne. Ça refroidit évidemment les velléités des musulmans qui avaient éventuellement envie de rejoindre l'armée, et cela a surtout mis un coup d'arrêt au soutien international à cette restructuration de l'armée. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Comment faire cohabiter dans une même armée des religions différentes, des ethnies rivales, et même d'anciens ennemis, comme des anti-Balaka ou des Seleka qui auront bénéficié du DDR pour intégrer ces forces armées. Beaucoup sont sceptiques. Quoi qu'il en soit, c'est un dossier qui est enclenché par l'actuelle transition, hein, on l'a vu, on l'a dit, mais qui sera l'un des grands chantiers du prochain pouvoir qui sera, lui, issu des élections, pour l'instant programmées en octobre et novembre prochain.
Merci beaucoup Pierre Pinto. Faudé, on vous souhaite évidemment une bonne journée à Cancan, 10h24 à Paris. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, la Libre Antenne, vos commentaires, vos réflexions sur l'actualité de la semaine. Vous nous contactez 33 9 693 693 70. Plusieurs questions maintenant après le double attentat meurtrier de la semaine dernière à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Une trentaine de morts, plus d'une centaine de blessés. Madjazra Nako est avec nous, il est le correspondant d'RFI au Tchad. Bonjour Madjazra.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On accueille Daoud qui nous appelle de Khartoum au Soudan. Bonjour Daoud, on va tendre l'oreille. On me dit que le réseau téléphone n'est pas très bon avec la capitale soudanaise. Bonjour Daoud.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les intervenants.
On vous écoute.
Bon, j'ai des questions à propos des attentats.
Oui.
La première question de savoir...
Bon, on a un problème avec Daoud, je vais donc me faire moi-même le porte-parole, je pense que ne nous capte pas, il y a des coupures. Majatranako, Daoud nous demandait sur quoi se basait l'État tchadien pour accuser Boko Haram d'avoir commis ce double attentat. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, cet attentat n'a toujours pas été revendiqué, donc sur quels indices se base-t-on pour affirmer que c'est Boko Haram qui se cache derrière ?
Bon, il faut déjà noter que la première indice, c'est le mode opératoire, on va dire, hein, des kamikazes, parce que dans la culture au Tchad, il ne revient au souvenir de personne qu'il y a un groupe social qui a cette façon de faire la guerre, c'est-à-dire de faire le kamikaze venir se faire exploser tout d'un coup dans un marché ou sur une place. Il faut aussi noter que le Tchad se savait menacé depuis le début de son intervention au Cameroun, au Niger et au Niger. Et pas besoin donc de vous rappeler cette fameuse vidéo de Aboubakar Shekau, vidéo dans laquelle il menaçait clairement ces trois pays de représailles.
Ouais.
Et donc depuis cette date, tout le monde savait qu'il fallait s'attendre à l'éventualité d'une attaque. Et dès les explosions, même sur Facebook, quand vous regardez les posts de Tchadiens, tout le monde a pensé à Boko Haram. Aujourd'hui, il n'est pas établi de façon scientifique qu'il s'agissait bien de Boko Haram, parce qu'il y a une enquête qui est en cours et l'enquête n'est pas encore terminée.
Ouais. Mais sait-on pourquoi ces attentats n'ont toujours pas été revendiqués ?
Bon, il y a plusieurs tentatives d'explication possibles. Première tentative, c'est que cela fait plus de 5 mois que, pour les observateurs, Boko Haram n'a pas communiqué. Et ça peut s'expliquer par le fait que l'organisation a connu beaucoup de pertes sur le terrain. Or, on sait que pour pouvoir communiquer, les djihadistes, ils font de la mise en scène et ça implique un certain nombre de logistiques. Or, aujourd'hui, ils sont plus en mode survie et ne pourraient pas avoir la possibilité de monter une vidéo et le poster comme, ou bien faire un enregistrement et le poster comme ils ont l'habitude de faire. Ça encore, j'insiste que c'est une tentative d'explication parce que il se pourrait aussi que l'attentat soit l'œuvre, par exemple, d'une cellule dormante ici en territoire tchadien et qui n'a pas été actionné de l'extérieur. Et sur ça encore, je reste très prudent en disant que l'enquête qui est en cours, si elle est conclue, pourrait nous édiger davantage.
Et alors, vous parliez à l'instant de cellules dormantes. Hassan, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes vous nous appelez de Dakar. Oui. On vous écoute.
Exact. Juan, permettez-moi d'abord d'exprimer mon indignation et ma solidarité à Laurent Koro pour son expédition Mani Militari de Niamena.
Merci de votre soutien, Hassan. On vous écoute, quelle est votre question ?
D'accord, alors revenons aux attaques terroristes attribuées à la secte Boko Haram, comme l'a dit mon confrère. Alors j'aimerais savoir comment Boko Haram a fait pour déjouer les dispositifs sécuritaires de Niamena pour frapper à même les commissariats centraux et l'école de police.
Ouais, c'était deux symboles de la République qui ont été visés. Peut-on dire que le Tchad a sous-estimé les capacités de Boko Haram, Majasranako ?
Dire que les capacités de Boko Haram ont été sous-estimées ne serait peut-être pas juste, parce que quand aujourd'hui vous entrez en territoire tchadien, que ce soit par la voie des airs ou par la route, au regard du dispositif, et quand on observe même dans la capitale ce qui se passe, ce serait peut-être exagéré de dire qu'on a sous-estimé. Mais bon, dans son discours au lendemain l'attentat, le chef de l'État a pointé quand même une baisse de vigilance. Et je pense que c'est plus de ce côté qu'il faut aller chercher l'explication.
Ouais, et depuis ces attentats, N'Djamena est placé sous haute surveillance. On avait d'autres questions, Majasranako, mais on aura peut-être l'occasion de vous rappeler la semaine prochaine pour y répondre, car cette actualité a suscité à la fois des questions et beaucoup de réactions au standard. Merci à tous de votre fidélité. D'autres questions lundi avec notre émission spéciale Chiite Sunnite. On vous attend évidemment et on répondra à toutes vos questions. Tout de suite le journal, et dans 10 minutes ce sera comme promis et comme tous les vendredis la libre antenne. À tout de suite.